It's showtime, folks. Bonjour et bienvenue dans Abracadapop, le podcast sur la magie de la pop culture, le popcast en quelque sorte. En direct de Koh Samui, je suis votre hôte Jean Weber pour vous aider aujourd'hui à démêler votre Mouad'Dib de votre Chai Ouloud et vous raconter, à propos de désert, telle une Scheherazade restant en vie de podcast en podcast grâce à vous, la saga Dune. On va évoquer tous les films. Abracadapop vient de voir de nouveaux films. Mais avant tout, donc, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Dune, sans jamais oser le demander. Vous prendrez bien un dernier verre pour la route? Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Aujourd'hui, notre histoire commence en 1965. Frank Herbert publie un roman du nom de Dune, un roman de science-fiction. Alors, c'est un âge d'or de la science-fiction. C'est une époque bénie des dieux, où tout d'un coup, on a des auteurs comme Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, avec 2001 Odyssée de l'espace, qui marquerait l'avènement du film de science-fiction blockbuster, sérieux, grand écran, quelques années plus tard, en 68. Et donc une littérature très riche, avec des Ray Bradbury et des Frank Herbert, qui racontent un futur, une extrapolation d'un futur souvent dystopien, dystopique, et qui nous permet ainsi d'avoir un reflet de notre réalité. On a des merveilleux films de cette époque, de cette rétro-SF, chère à Abracadapop, des films comme Soleil Vert, ou toute cette série de films donc avec Charlton Heston, comme The Omega Man, ou La planète des singes, bien sûr, de Pierre Boulle, un autre grand roman de science-fiction. Eh bien, cette fois-ci, c'est Frank Herbert qui, une fois de plus, est porté à l'écran par Denis Villeneuve, un très, très grand metteur en scène dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. Mais pour l'heure, nous sommes en 65. Il présente un futur qui est une allégorie sur le pétrole, une allégorie sur la drogue. Le jeune Frank Herbert, à l'époque, a dû découvrir le haschich et l'essence en même temps, puisqu'il nous raconte cette parabole sur ce messie, ce sauveur, le Mouad'Dib dont nous parlions en début d'émission, qui tout d'un coup arrive, Paul Atréides, et qui va sauver un peuple dans cette guerre éternelle entre sa famille, les Atréides, et les terribles Harkonnen, avec à leur tête le baron Vladimir Harkonnen. Quelques spoilers légers aujourd'hui, si vous n'avez pas vu les Dunes, ni de Lynch, ni surtout de Villeneuve, en particulier le deuxième, donc qui est sorti quand même assez récemment en salle, eh bien voyez-le, lisez les livres et revenez dans 2 ans pour écouter le podcast. Mais pour l'heure, si vous avez vu les films, restez avec moi. Alors ma critique est très simple, quand je suis sorti, c'était tellement fort le son que j'avais les portugaises ensablées. Non, plus sérieusement, c'est un film, une saga étonnante qui rappelle bien sûr Les Seigneurs des Anneaux et autres Star Wars. Et en 2024, ça fait plaisir d'avoir un film qui ait une telle tenue esthétique et qui puisse s'inscrire ainsi dans la lignée des grandes franchises du cinéma fantastique et du fantasy cinéma, comme on dit. Le film a certaines résonances politico-sociales qu'avait déjà le livre d'Herbert, décliné sur plusieurs livres, sur 6 livres à travers, je crois, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ce sont plusieurs autres auteurs, dont le fils de Frank Herbert, qui ont repris les histoires. Paraît-il, sont un petit peu moins bien. Villeneuve s'est désintéressé de la suite. On voit que son film, spoiler alert, se termine par un cliffhanger. Et donc, vu le succès du second, même si ça va être difficile parce qu'il a coûté tellement cher, il n'a plus une dune pour le 3, il va probablement le faire rempiler. et continuer à nous raconter les histoires de Paul Atréides, ce jeune messie, ce jeune sauveur du peuple Fremen. L'épice, c'est l'enjeu ultime, qui est donc cette drogue, qui est à la fois une drogue, qui représente une substance mystique, une substance quasiment magique, et qui est farouchement gardée par les énormes vers des sables, dont nous allons parler aussi un petit peu plus avant, dans quelques instants dans l'émission. Frank Herbert rencontre énormément de succès. Abracadapop a lu le deux ou trois des livres quand il était jeune. C'est une espèce de passage obligé dans la littérature. Je ne sais pas si aujourd'hui les livres sont toujours aussi lus. En tous les cas, les films, eux, sont très, très vus et permettent à une nouvelle génération de découvrir cette histoire de Frank Herbert et toutes ces ramifications écologiques, très importantes, bien sûr, et comme je disais, politiques et sociales, qui permettent au film d'être plus qu'un simple divertissement de science-fiction de plus, et d'être supérieur à, par exemple, au hasard, le Rebel Moon de Zack Snyder, qui est passé récemment sur Netflix, et qui tente également de créer un nouveau monde, une nouvelle franchise qui se démarque, qui est une espèce de rip-off de Star Wars, qui est moins réussi que le travail de Denis Villeneuve. Alors on va étudier un petit peu ensemble, on va survoler cette extraordinaire œuvre brutaliste de Denis Villeneuve, en particulier l'architecture des Harkonnen, et évoquer ensemble les choses que Abracadabra a beaucoup aimées et les choses qu'Abracadabra a un peu moins aimées également. Mais donc au début, ce livre fascine tout le monde, dont bien sûr, puisque ça parle de drogue et d'expansion de l'esprit, Alejandro Jodorowsky. Alors, Alejandro Jodorowsky, qui a fait la montagne sacrée El Topo, et qui tout d'un coup s'intéresse de très près à cette œuvre, et veut en faire la première extraordinaire saga de science-fiction psychédélique, lysergique et liturgique. Je fais exprès la voix de Dali parce qu'il pense à l'époque à Salvador Dali pour faire le rôle de l'empereur, qui serait finalement tenu par José Ferrer, je crois, dans le film de David Lynch, et surtout Christopher Walken, dont on va beaucoup parler aussi dans quelques instants, dans le film de Villeneuve. Dali demande à être payé 1 million par jour, je crois, et très vite, Jodorowsky, qui fait preuve d'une très grande inventivité, décide de créer un automate, une espèce de marionnette de Dali, qu'il utiliserait à la place du peintre dans ses scènes, en particulier dans les scènes de background où il devait apparaître. Mais donc, toujours est-il qu'il prépare en amont un extraordinaire portfolio, un document fantastique qu'on voit dans ce documentaire sur le Dune de Jodorowsky, qui est sur ce film donc un des plus grands films de l'histoire du cinéma qui n'a jamais vu le jour. Et on le voit partant à Hollywood avec sous le bras une espèce d'énorme livre dans lequel il y a des photos et surtout le travail artistique extraordinaire et des storyboards d'artistes comme Möbius, Hans Rudi Giger, qui lui s'occupe uniquement de la création de l'architecture et du monde des Harkonnen. On peut voir d'ailleurs online des magnifiques dessins et dans ce documentaire des travaux sur Harkonnen, cette créature obèse toujours dans toutes ses incarnations, comme dans le livre d'ailleurs à la base, et toujours ce côté biomécanique qu'on va retrouver un petit peu chez Villeneuve dans l'esthétique Harkonnen, comme si tout d'un coup il rendait hommage, il tirait une espèce de coup de chapeau à Hans Rudi qui a marqué la science-fiction avec son Alien. Et surtout avec cette création de biomécanique qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de films après lui, et notamment dans l'armure des Harkonnen et de celle de Fade Rotha. Alors, on va beaucoup parler de Fade Rotha, bien sûr. Un petit teaser. Fade Rotha, c'est le neveu du baron, le cousin de Rabban, la bête, joué par David Bautista, qui était joué dans le film original de David Lynch par Paul Smith, le gros tortionnaire turc, c'est pas facile à dire, de Midnight Express. Et donc, qui était absolument terrifiant. Ils étaient tous roux, les Harkonnen, dans le film de David Lynch, dont nous allons parler un petit peu maintenant. Et C'était ce qu'il y avait de plus réussi dans le film. Quand on revisite le film de Lynch, qui est une espèce de gros soufflé étrange raté, il a souffert beaucoup d'un manque de budget pour ses ambitions, d'un clash avec Dino De Laurentiis. Il faudrait faire une série télé comme The Offer, mais sur le making-of, sur le film de David Lynch, sur le duo de David Lynch et son rapport avec De Laurentiis. David Lynch, qui ces jours-ci, si on regarde ses photos sur Internet, ressemble au Big Lebowski étonnamment. Il s'est laissé pousser une barbe et des cheveux longs. Et il est très beau, il a toujours cette chevelure magnifique. Mais il s'est lebowskisé et ça lui va très bien. Vivement qu'il fasse un autre film. Toujours est-il que dans celui-là, il y a des éclairs de folie, des éclairs de génie lynchesque, lynchien. Tout d'un coup, il y a une image, par exemple, qui est cette espèce de ver géant, non pas ceux qu'on voit dans le sable, mais une espèce de, je crois que c'est le voyageur de la guilde ou je sais pas quoi, un personnage qui a des pouvoirs et qu'on voit dans un étrange aquarium et qui est une espèce de gros ver qui a marqué à l'époque l'esprit du petit abracadapod à tout jamais, et qui reste une image aussi forte, sinon plus forte, que n'importe quoi de ce qu'on voit dans le film de Villeneuve. Et bien sûr, donc, le baron Harkonnen était extraordinaire, il est joué par un acteur merveilleux du nom de Kenneth MacMillan, que mon père avait dirigé dans le remake des Trois Fugitifs, mon père Francis Weber, je le dis pour nos nouveaux auditeurs, et il avait des scènes magnifiques, notamment quand il partait en suspension, grâce à un apparatus qui lui permettait de ne pas avoir à marcher à cause de son poids énorme, et toujours ce personnage, encore plus dans le film de Villeneuve, qui rappelle non seulement L. Ron Hubbard, mais aussi Donald Trump, le culte de la personnalité des hommes politiques, à la Hitler aussi, qui sont plus proches de gourous que d'hommes politiques. Et ça, on ressent bien cette dimension dans tous les films. Alors, il y a un truc qui revient dans tous les films aussi, c'est que c'est très dangereux de travailler au service des Harkonnen. Si vous êtes une femme de ménage ou une chambermaid, comme on dit en anglais, une camériste, et bien en général, on finit avec la gorge tranchée par Fed Rotha ou tué par Harkonnen de façon sauvage et brutale. Donc, effectivement, si vous avez l'occasion d'être employé par les Harkonnen, vaut mieux éviter. C'est drôle d'ailleurs parce qu'ils prennent cette idée qui était formidable dans Star Wars où à chaque fois que un des lieutenants de Darth Vador faisait une erreur, Vador se tournait vers lui et commençait à l'étrangler à distance en lui faisant une remontrance.
I find your lack of faith disturbing.
Et ben là, ils ont poussé ça à 11 au cagiomètre. Puisque à chaque fois qu'il y a un serviteur ou quelqu'un qui dit une bêtise ou qui ne va pas dans le sens des méchants, il est absolument tué immédiatement.
Ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces serviteurs cherchent la petite bête, alors qu'ils savent très bien à quel point leurs patrons sont dangereux. Mais ils y vont quand même.
En quelque sorte, ils cherchent la petite bête avec Raban, la bête. C'était donc une tradition qui vient surtout des James Bond, où à chaque fois que un sous-fifre, entre guillemets, trahissait le méchant, il se retrouvait dans un bac avec des requins ou des piranhas. Une tradition qui réjouit toujours Abracadapod. Et Abracadapop, aujourd'hui, Sting. Sting était étonnant puisque on se rappelle bien de lui à l'époque, il avait ce look punk rock, new wave avec cette coiffure rousse et il arrivait à créer un personnage très intéressant à la manière d'un Bowie dans The Man Who Fell to Earth. Il profitait de son charisme de rockstar pour imposer un personnage de rockstar parce que Fade Rotha, une de ses particularités dans le livre comme dans les films, est qu'il est une rockstar, un personnage imbu de lui-même. Un personnage qui est un mélange de Caligula et David Bowie, et qui doit être aussi séduisant que dangereux. Et Sting avait ce côté animal, et ce corps étonnant, travaillé par le tantra, des heures et des heures à faire l'amour avec sa femme.
Parce qu'il y a une Madame Sting.
On forgeait cet étrange corps sec du chanteur de police. Mais faisons ni d'une ni deux, et passons au film de Villeneuve.
Say it now, yes. Say it now, yes. Me and the Ohio player gonna tell you about a worm. He's the funkiest worm in the world. Okay, say it, fellas.
There's a worm in the ground.
Alors Villeneuve, un grand metteur en scène, comme je disais, Sicario, Arrival. Blade Runner 2049, qu'il s'illustre dans le film, le thriller, le film policier, la science-fiction. Il a un style personnel extraordinaire, il s'est filmé de façon merveilleuse et raconte des histoires viscérales avec des acteurs qui sont au sommet de leur game. Donc il était l'homme idéal de la situation. Il adore le livre aussi, un petit peu comme Peter Jackson arrivant sur les Seigneurs des Anneaux. Il arrive avec un projet qui lui tient à cœur et il donne tout. Et on voit effectivement des heures et des heures de travail avec un film absolument parfait visuellement et qui parfois pêche peut-être un peu par la narration et par son histoire, par son scénario. Ces romans fleuves sont très difficiles à adapter. Et parfois, on a l'impression que des scènes sont un petit peu avortées, en particulier dans le deuxième. Abracadapop préfère le premier, en fait, effectivement, puisque Villeneuve, à l'instar d'un Nolan, filme très bien l'architecture. Il a un sens magnifique des proportions et de la composition d'un plan, et il a un petit peu plus de mal avec l'action, comme Nolan également. Dès que ça commence à bouger, je ne parle pas effectivement des vaisseaux, il filme très très bien les vaisseaux aussi. Il a quelque chose d'immédiat qui rappelle tout d'un coup le reportage de guerre, et c'est formidable quand c'est adapté à la science-fiction. Il partage une similitude également avec un metteur en scène qui malheureusement a déçu un peu dans le passé après avoir fait un début fulgurant, qui est Neil Blomkamp avec District 9 et Elysium, également un film mésestimé. On a l'impression véritablement que, c'est ce qu'avait d'ailleurs Ridley Scott aussi dans Alien, c'est que tout a l'air vrai. On a l'impression que toute la quincaillerie, toute la technologie peut être utilisée et pourrait fonctionner si on arrivait ce jour-là sur le plateau. Il invente littéralement une nouvelle civilisation avec les Harkonnen, avec les Atreides, avec les Fremen, et toute la technologie qui va avec chacune des peuplades et des cultures et des races représentées est travaillée comme dans un film de Cameron. C'est la même famille que les Cameron, les Fincher ou les Nolan, donc des gens qui sont des grands perfectionnistes et qui offrent fatalement des œuvres exceptionnelles. Donc Dune 2, un peu plus décevant parce que il souffre encore un peu plus de ce dont souffrait l'original, qui est ce syndrome du sauveur blanc. Effectivement, on a toujours quand même ce petit bonhomme. Quoi qu'on fasse, Abracadapod n'a jamais fait le secret du fait que Kyle MacLachlan n'est pas son acteur préféré. Il est formidable dans des films comme Blue Velvet, où justement il joue de son inconfortabilité à l'écran pour nourrir son personnage. Et là, il est bien, mais pour incarner tout d'un coup une espèce de messie avec un brushing, il devient l'avatar, l'alter ego improbable de David Lynch, avec un rôle qui est très difficile à jouer, puisqu'il est un personnage totalement pur. Et même si Timothée Chalamet, d'origine française, un acteur qu'Abracadapop aime bien, s'en tire plutôt pas mal dans le rôle, il reste encore un petit peu quand même ridicule par moments et improbable, car trop enfantin physiquement, dans le rôle d'un tueur, d'un messie, d'un leader d'un peuple. Mais il paraît qu'il est bien dans Wonka et c'est un acteur qui est un bon acteur. Timothée, qui au demeurant est excellent dans les deux saisons qu'il a faites au Saturday Night Live et qui prouve qu'il a une véritable vis comica, il tourne ces jours-ci Bob Dylan pour James Mangold et Abracadapod pense qu'il a un excellent potentiel.
The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to.
Et qui, même si il représente, comme d'autres acteurs de sa génération, un nouveau modèle de leading man plus féminin, plus fragile, je pense que dans l'avenir, avec les bons rôles, il pourra faire des films intéressants et peut-être révéler une palette plus grande qu'il n'a bien sûr pas pu révéler encore, dû à son jeune âge. Le premier film était très bien. Il y avait un souffle épique, un souffle d'aventure, presque un côté film de cape et d'épée, en particulier avec Jason Momoa et Oscar Isaac, qui tous les deux trouvaient la mort dans le volet précédent et qui amenaient tout le charisme d'Errol Flynn moderne au rôle qu'ils interprétaient. Et on introduisait bien sûr l'extraordinaire Stellan Skarsgård, un des seconds rôles préférés d'Abracadapop, un acteur qui joue aussi bien les méchants que les gentils, qui est un homme merveilleux dans la vie, qui est un père de famille, qui est à la tête d'une dynastie d'acteurs extraordinaires, Bill Skarsgård et Peter, et encore un ou deux autres, je crois, à la manière des Hemsworth en Australie ou des Baldwin en Amérique, ou des Barrymore avant eux. Ce sont effectivement des dynasties d'acteurs extraordinaires. Les Skarsgård sont fantastiques. Et lui, surtout, Stellan, est toujours merveilleux. C'est un acteur fétiche de Lars von Trier. On comprend pourquoi, parce qu'il peut jouer tout, en fait. Il n'a aucun problème. J'ai regardé une interview de lui sur YouTube où il parle de tous ses rôles un à un. Et c'est toujours fascinant. Il a beaucoup souffert sur Dune, mais il avait véritablement envie de travailler avec Villeneuve, comme la plupart des acteurs. Mais cette espèce de fat suit, et ensuite baigné dans un bain d'huile digne du salaire de la peur et de Charles Vanel, ça a dû être très très inconfortable pour lui. Il est souvent aussi sur câble, monté avec des filins dans un fat suit. Donc tout ça a dû être effectivement très très inconfortable. J'ai oublié de préciser qu'à l'époque du Dune de Jodorowsky, sur lequel je ne me suis pas trop étendu parce qu'il y a ce merveilleux documentaire que je vous recommande, la musique devait être faite par Pink Floyd, ou en tous les cas, les Atreides, les gentils, devaient être scorés par Pink Floyd. Et les méchants, les Harkonnen, devaient être scorés par Magma. Je regarde dans mes notes, j'ai noté que Chalamet était le fils de Alain Delon et Bernard Ménez, le fils de Patrick Devers et Patrick Topalov. Mais c'est vrai que ce soit lui ou McLahan, cette espèce de Messie Mouad'Dib avec cette coiffure Jean-Louis David est un personnage qui est difficile à accepter et surtout très difficile à caster, bien sûr. C'est pas si facile que ça de tomber tous les jours sur un jeune Mark Hamill qui amène l'ingénuité, la candeur et un côté farouche tout d'un coup quand il le faut. Zendaya est très jolie. Elle joue la fiancée de Paul Atreides, ou en tous les cas sa promise, la jeune Fremen. C'est tout d'un coup Titanic dans le désert, ou une espèce de version de Roméo et Juliette de science-fiction. Elle est formidable, c'était la fiancée de Spider-Man. Elle est la fiancée Spider-Man dans la vie de Tom Holland. C'est une très jeune actrice qui, cette fois-ci, a un rôle plus important que dans le précédent, et qui amène sa beauté et sa gravité au personnage, un personnage pas très intéressant non plus, même si elle est l'égale de Paul, c'est une fois de plus un personnage parfait qui ne présente pas un challenge énorme pour un acteur. Mais le film a ce côté young adult, ce côté Twilight un petit peu, ce côté Titanic dont je parlais, où tout d'un coup on a ces deux jeunes gens qui s'embrassent avec un coucher de soleil et cette musique. Ce sont toujours des musiques de muezzin ou de femmes. Qui partent dans des lamentations arabisantes dès qu'on est dans le désert au cinéma. Ça, c'est un cliché qu'on ne peut pas éviter. Et Villeneuve n'y échappe pas. Brolin et Bardem. Et voici Brolin et Bardem. C'est un bon nom de clown. Alors, ils étaient merveilleux déjà dans No Country for Old Men, No Country for Old Fremen cette fois-ci. Ils se retrouvent pour Dune. Ils sont très très amis dans la vie. Ils sont des acteurs formidables. Il y en a un qui ressemble maintenant à Anthony Quinn et l'autre à Charles Bronson. Donc, ils ont très bien vieilli et amènent tout leur passé de comédien et tout leur côté badass, justement, eux. À leurs personnages, ils sont très crédibles. Bizarrement, Bardem est le comic relief, c'est lui qui est censé amener l'humour, mais il est un des rares personnages qui est véritablement écrit, parce que ça fait écho à Frank Herbert, et il est un personnage qui, tout d'un coup, croit véritablement qu'il a affaire au Messie, et on ne sait pas véritablement s'il a raison ou s'il a tort, s'il est un illuminé ou s'il est un croyant, et ça en fait un personnage à la fois attachant et qui amène une touche de légèreté au film qui en a bien besoin, un film qui est par moments assez pesant, assez lourd, un peu prétentieux, un peu lent, et dont les scènes finalement ne se développent pas autant, comme je disais, que je l'aurais souhaité. Ça finit souvent de façon abrupte, et on aurait voulu par exemple qu'un acteur comme David Bautista, qui est un des meilleurs acteurs, un des meilleurs catcheurs devenu acteur avec John Cena, The Rock, et bien sûr Lino Ventura avant eux, eh bien on aurait aimé qu'il ait un peu plus de choses à faire que ce qu'il a à faire dans le film. Il n'avait pas grand-chose dans le premier, mais c'était un setup, une promesse de ce qui allait venir. Et la punchline est un peu décevante. Ils disparaissent tous, aussi bien lui que Harkonnen, que Fade, de façon un petit peu expéditive, et non peut-être pas le développement et le final qu'auraient mérité des personnages aussi magnifiques que ceux créés par Frank Herbert.
Rebecca.
Ferguson, la jeune femme qui jouait dans Mission Impossible et qui jouait Rose de Hat dans Doctor Sleep, est très bien toujours dans le rôle de la mère de Paul Atreides. Charlotte Rampling est formidable dans un rôle qui rappelle un peu ce qu'elle faisait dans Zardoz, sauf que cette fois-ci, elle n'est plus une espèce de nonne sexuelle dans un film psychédélique de John Boorman, mais elle est la mère supérieure, elle est la grande prêtresse Ben Gesserit,
À ne pas confondre avec Ben Gazzara.
et elle amène un mystère, et elle prouve qu'on peut jouer derrière un voile ou derrière un masque quand on est un très grand acteur, et qu'on non seulement on est capable de reconnaître l'acteur, mais en plus on est capable de faire passer toutes les nuances du personnage derrière du tulle. Celui qui est un peu plus louche, c'est Christopher Walken, qui a dit qu'il avait vraiment envie de faire le film parce qu'il voulait, je crois, tourner à Budapest et avec Denis Villeneuve. Donc il est parti en vacances et il a très peu de scènes. Il est très vieux, il était en demi-retraite. Et surtout, il fait Christopher Walken. On a l'impression qu'il arrive de New York et il ne fait absolument aucun effort pour créer un quelconque personnage. En plus, ils l'ont habillé comme une vieille dame à la fin, et il arrive, et donc c'est une espèce de rayon de comédie inespéré en fin de film. Après un film très très long, comme vous pouvez l'imaginer, ces films énormes de plus de 2 h 30, de plus de 2 h 45, tout d'un coup, de voir arriver Christopher Walken avec une robe, c'était un plaisir formidable, et une espèce de soupape bien méritée. Le film, comme tous les blockbusters récents, est un gros jukebox qui emprunte à beaucoup, beaucoup de films précédents, tous ces films qu'a aimé notre ami Villeneuve. Et on peut voir successivement des clins d'œil à Gladiator, aux films de Peplum en général, à Leni von Riefenstahl, et toute cette esthétique nazie pour les Harkonnen, de Guerre des Étoiles et de Seigneur des Anneaux, tout ça sur fond de sauce shakespearienne, où des familles s'entre-déchirent entre elles. À propos, donc, Fade Rotha, l'héritier Harkonnen qui est censé reprendre le pouvoir, qui est une espèce d'enfant capricieux et cruel, qui est incarné par Austin Butler. Alors, il est formidable, il a une présence extraordinaire dans le film, on l'avait vu déjà dans le Elvis de Baz Luhrmann, et même un petit peu dans le rôle de Tex Watson dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. C'est un acteur qui est très beau, et qui en plus a une espèce de charisme vénéneux qui est formidable pour Fed Rota. Par moments, il joue un petit peu au badass, et il est plus en paraître qu'en être, c'est-à-dire que il a comparé sa performance, ou en tout cas, il a dit avoir été inspiré par Heath Ledger dans le Joker, ou par, je crois, Gary Oldman dans Léon, et on se rend compte que ce sont des personnages et des performances et des acteurs qui sont supérieurs. Austin Butler, à la manière de Timothée Chalamet, est encore un rookie, il est au début de sa carrière, une carrière extrêmement prometteuse quand on voit ce qu'il a fait jusqu'à présent, mais pour l'instant, il est encore à se reposer sur des tics, sur des maniérismes et sur sa beauté, cette beauté qui est celle d'un mannequin et qui fait que Fade Rotha a l'air plus plastique. On a l'impression presque que c'est une version gigueresque de Ken, de Barbie, entre les mains d'un Villeneuve qui, comme je disais, a du mal à filmer l'action. Et ça se voit surtout dans ses combats gladiatoresques avec Fade Rotha, des combats au poignard, encore plus difficiles à filmer que les combats à main nue ou les combats à l'épée. Et Villeneuve a du mal, et on a l'impression que quelque chose d'un petit peu figé contrairement aux extraordinaires combats de films d'arts martiaux qui utilisent des poignards, des films comme The Raid ou même les John Wick, où tout d'un coup on a des combats à l'arme blanche qui sont extraordinairement chorégraphiés par des metteurs en scène qui viennent du monde de la cascade, plus que celui de la direction artistique, et c'est mieux chorégraphié, ça bouge mieux à la manière de ballet comme ceux de Fred Astaire ou Gene Kelly. Mais ceci dit donc, il est magnifique, il est beau à voir, les costumes sont extraordinaires, et dès qu'on est avec les Harkonnen, c'est difficile de s'ennuyer, ce sont les méchants du film, et meilleurs sont les méchants, meilleur est le film, comme disait Good Evening, Alfred Hitchcock. Mais le film souffre un peu beaucoup de l'esthétique des blockbusters actuels, c'est qu'on a l'impression que ce sont des films qui sont non seulement pensés scénaristiquement par l'AI, mais qui sont réalisés par l'AI, ce qui fait qu'on a tous ces personnages qui ont l'air d'être sortis d'un jeu vidéo et qui finalement n'ont plus véritablement de présence. Et c'est plus difficile de s'identifier, surtout dans un film sur des messies et des vers géants. Les effets spéciaux sont remarquables. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut absolument tout faire. C'est difficile d'être épaté même, d'être bluffé par des vers qu'on a déjà vus pas mal fait déjà dans le Lynch. Et aussi, il y a eu des séries télé qui l'ont fait aussi. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. C'est vrai que ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran dans le film de Villeneuve, on a l'impression d'une apparition presque d'une déité cosmique. Ça, c'est très très bien fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que ces vers de terre sont à la fois, ces vers des sables sont à la fois un moyen de transport, parce qu'à un moment, on voit tous les Fremen qui sont sur le ver comme dans un transport en commun, comme s'ils étaient dans le métro. C'est à la fois un sport extrême, puisque on dompte le ver et on le chevauche un petit peu comme un surfeur. Et c'est un passage initiatique pour cette tribu des Fremen qui rappelle aussi bien les natifs américains que les peuplades du désert. De tous les déserts. Le plus ridicule, c'est ils ont fait toute une série de merchandising pour le film, dont un énorme pot à pop-corn avec des dents qui ressemblent en fait aux vers de terre géants et qui ressemblent en fait à un sextoy de Dune. Et j'imagine le gag de la boum avec cette boîte à pop-corn. Il faudrait faire un sketch genre Saturday Night Live où il y a les Harkonnen qui sont tout d'un coup dans leur salon. D'ailleurs, c'est les pièces dans lesquelles habitent les personnages de Villeneuve, en particulier les Harkonnen, cet univers et cette architecture brutaliste dont je parlais. Il n'y a pas de fauteuil. Ça a l'air très très inconfortable. On doit s'asseoir soit sur des marches, soit sur des rectangles ou des triangles qui ressemblent presque à quelque chose qu'on aurait vu dans l'expressionnisme allemand du cabinet du docteur Caligari. Et ce qui serait drôle, c'est qu'on ait tout d'un coup les Harkonnen qui sont en réunion comme ça, tous chauves et terrifiants dans leur combinaison, dans leurs armures de samouraï de Giger, et qu'il y a une femme de ménage chauve à l'arrière-plan qui est en train de nettoyer, mais qui a très très peur de se faire tuer par l'un d'entre eux, parce que tout d'un coup, elle a oublié un peu de poussière au-dessus d'un triangle ou de quelques marches. Autre combat au couteau excellent, Steven Seagal contre Tommy Lee Jones dans Under Siege. Un très bon film, peut-être le seul bon film de Steven Seagal. Le film est donc une allégorie religieuse aussi. Ce personnage de Messie rappelle Jésus, rappelle Mahomet, rappelle Siddhartha. Et ça fait penser aussi à la scientologie, où tout d'un coup, Ron Hubbard avait basé les préceptes de sa religion sur sa science-fiction, sur sa littérature de science-fiction. Et on sent que Frank Herbert aurait pu tout à fait faire la même chose avec l'épice et Muad'Dib. D'ailleurs, il paraît qu'à l'époque de Star Wars, Coppola avait dit à Lucas que s'il voulait véritablement avoir le pouvoir et devenir très puissant, donc, il devrait faire de la Force une véritable religion et de Star Wars une secte. Finalement, c'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs. Comme tous ces films qui sont au milieu d'une trilogie, très probable, qui n'a pas encore été annoncée, mais qui verra très certainement le jour. La fin est un petit peu en queue de poisson, le cliffhanger est un petit peu pourri, on aurait envie de films qui sont des histoires pleines, comme dans le temps, comme du temps où je m'appelais Jackie, et qu'on n'ait pas besoin d'attendre ce qui va se passer dans le prochain. Un petit peu comme dans Abracadapop.
Pod.
Bien, merci mes abracadamis pour ce voyage au pays d'Arrakis.
C'est comme dans tous les pays, il y a des méchants et des gentils.
On se retrouve dans quelques jours pour une surprise avec tous les ciné-buddies. Plein de belles choses pour le mois de mars. Donc surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire et de liker la chaîne Abracadapod sur YouTube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, non, 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 tu demandes à qui ça sert, tous ces podcasts un peu pourris qu'on te demande de regarder les yeux bandés.
Sur Abracadapod.
Pod.
Pod.
That's all, folks.